cette carrière.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que Maestro Zandana ait dit une voix comme celle-là, on n'en trouve qu'une par siècle?
Non è successo niente, purtroppo, con il Maestro Zandana. Io ho fatto i miei primi due concerti diretti da lui, con l'orchestra diretta da lui, sempre cantando questi due pezzi che avevo fatto per la sua audizione. E poi da allora io ho cominciato il mio volo
Alors en fait, lui a dirigé mes deux premiers concerts où j'ai chanté ces deux morceaux que j'avais chantés en audition pour lui. Et puis après, j'ai quitté le conservatoire, j'ai pris mon envol en somme. Et après est arrivée l'époque de la guerre et donc tout le monde s'est séparé. Et je ne l'ai malheureusement plus revu puisque lui est mort pendant l'époque de la guerre. Donc il a fallu que j'aille, à Rovigo. C'était un voyage plutôt désastreux. Les wagons sur la route, les wagons étaient brûlés, les gares étaient incendiées. C'était un voyage apocalyptique et avec les bombes qui tombaient, la peur d'être bombardé. Mais enfin finalement, je suis arrivé à Rovigo et on a commencé les répétitions à l'hôtel. Et les répétitions étaient constamment interrompues par la sirène à cause des bombardements, donc il fallait immédiatement descendre dans le refuge. Et puis les répétitions finalement se sont terminées et on est arrivé au soir de la première. Madame Carmen Mélis qui était là, c'est elle qui s'est occupée de moi, qui m'a habillé, qui m'a maquillé, qui m'a fait encore repasser tout le rôle. Et après elle était calme, elle a vu que tout allait bien. Elle était tranquille, mais moi j'étais pas calme du tout. Alors arrive ma scène où j'étais assise sur un trône, habillée en péplum, comme Hélène de Troie. Et au moment où j'ai entendu le bruit du rideau qui se levait, j'ai eu envie moi aussi de me lever et de partir en courant. Mais en coulisses, j'ai vu Carmen Mélis qui me regardait. Elle m'a en fait quasiment hypnotisé en disant que. J'ai vu dans son regard qu'il fallait que je reste. Alors j'ai commencé à chanter et quand j'ai commencé à chanter, j'ai tout oublié. Je me suis laissé emporter par la musique. Et ça s'est bien passé. J'ai eu de très bonnes critiques et alors mon nom a commencé à circuler. Renata Tebaldi qui a fait ses débuts à Rovigo et en dépit d'une période difficile, ma carrière était partie.
Naturalmente la guerra era finita, perché se no, come sono venuta io a Milano, la guerra era finita nel 45 maggio, 25 di maggio, insomma, siamo stati liberati. E infatti poi nella stagione del 46,
che la guerra était finita, puisque le 5 mai 45 on a été libéré, l'Italie a été libérée, alors tout évidemment à Milan tout devenait plus facile et en... Et c'est comme ça qu'en 1946, on m'a demandé, quand je suis revenu après les André Chénier, on m'a demandé de faire l'Amico Fritz à Brescia. Et entre-temps, Toscanini est revenu en Italie. Et à ce moment-là, la rumeur c'était se répandait qu'il désirait entendre tous les chanteurs qu'il avait connus avant son départ et également les jeunes qui avaient émergé durant cette période, puisque Toscanini s'était exilé au moment du fascisme, puisqu'il avait refusé de jouer l'hymne fasciste, donc il s'était exilé. Et donc à son retour, il y avait ce bruit qui courait, qu'il voulait entendre tous ceux qu'il avait connus avant et aussi les jeunes qui étaient apparus pendant son absence. Piano auf der Rente, piano, piano, leggero, leggero. Allora, dopo queste recite di Amico Fritz a Brescia, sono tornata a Milano e dopo due o tre giorni mi hanno chiamato i signori della Scala per dirmi che il maestro Toscanini, appunto avendo deciso di sentire tutti i giovani, aveva messo anche il mio nome. Donc, alla Scala, après être revenu à Milan, deux ou trois jours après, la Scala m'a appelé en me disant que effectivement Toscanini avait écrit mon nom sur un carnet où il notait les noms et que je faisais partie des chanteurs qu'il voulait entendre. Alors j'étais convoqué pour un samedi d'avril, un samedi matin, pour passer une audition pour lui. Alors pour moi, c'était un choc, parce que c'était ce grand homme avec une réputation terrible, sévère, un petit peu un peu brutal. Et je pensais même pas que c'était possible. Alors, le matin de l'audition, je me suis réveillé à 5 heures et l'audition était à 10 heures. Alors, je savais pas comment occuper ces 5 heures. Alors, finalement, j'ai décidé de me rendre à pied à la Scala. Mais malheureusement, ça n'a pas pris 5 heures. Et alors, j'ai encore dû patienter. Et puis, est arrivé finalement le moment où on a appelé mon nom. Je suis rentré dans la salle. Il était déjà là avec son fils Walter et l'intendant de la Scala du moment qui s'appelait Geringhelli. Et alors, il m'a posé des questions, où je vivais, avec qui j'avais étudié, ce que j'avais envie de chanter. Et alors, d'abord, ce que je lui ai dit que j'aimerais bien, pour me chauffer la voix, chanter, parce qu'à 10h du matin, sans vocalise, j'aimerais bien chanter le André Chénier pour me chauffer la voix. Et puis je me suis dit, on verra bien, s'il me demande un deuxième morceau, ça veut dire que mon audition s'est bien passée. Alors j'ai chanté l'André Chénier, et puis il est resté une minute, peut-être une minute sans parler, mais à moi ça m'a semblé vraiment une éternité. Et puis il m'a demandé si je voulais chanter autre chose. Alors je dis oui, comme je vous l'ai dit avant, j'aimerais bien chanter l'Otello, en commençant la chanson du Saul et puis en allant jusqu'à la fin de la scène, à l'Ave Maria. Alors, il dit, j'ai bien vu, il m'a regardé une drôle de manière, de dire, mais quel courage, à 10h du matin, je chantais déjà tout ça, et puis voilà, et il m'a fait signe de bien aller vers le piano et de chanter, et j'ai commencé.
Les trésors de France Musique.
Addio del passato, bei sogni, riderti le rose del volo, già sono palle.
Oh!
Dopo questa audizione, che devo essere stata, insomma, ho fatto bene, anche io lo so in coscienza di aver cantato molto bene, il maestro è stato molto molto ben impressionato e molto contento di avermi ascoltata e mi ha detto brava brava e mi ha congedato. Io sono ritornata a casa tutta felice.
Après l'audition, moi j'étais très contente, j'étais sûre d'avoir bien chanté.
Et alors je suis rentrée,
je dis parce que le maestro m'a dit brava brava, alors je suis rentrée à la maison, j'ai dit maman, le maestro m'a dit brava, brava, j'étais tellement contente. Et puis la maman, toujours très sévère, m'a dit bah, écoute, hein, on verra bien ce qu'il en sortira. Mais moi, j'étais très, très confiante, j'étais très contente. Et puis après quelques jours, la Scala me téléphone et me dit écoutez, mademoiselle, il faut que vous veniez pour signer le contrat. Alors, j'ai dit, le contrat, mais quel contrat? Alors j'ai dit, il nous dit ben voilà, le maestro est resté était tellement impressionné de votre audition qu'il vous veut pour le concert inaugural de la Scala reconstruite, puisque la Scala a été bombardée, reconstruite. Alors là j'étais tellement choqué, tellement ému qu'à la maison là, ma maman n'arrivait plus à me tenir, tellement j'étais énervé et ému. On a commencé les répétitions. Et je me suis aperçu que finalement il n'était pas aussi austère et aussi terrible qu'on le disait. Simplement, il était très précis et il savait exactement ce qu'il voulait musicalement. Alors, pour ce concert inaugural, il n'y avait pas énormément de choses à chanter puisqu'il y avait aussi des morceaux d'orchestre. Il y avait la prière. Il y avait la prière du Moïse de Rossini où à la fin le soprano intervient en dernier et doit reprendre ce motif. Après, il y avait les vêpres siciliennes et il y avait le Te Deum de Verdi. Et dans le Te Deum de Verdi, il y a un endroit où il y a marqué voce sola, voix seule pour soprano. Alors je devais faire ce petit rôle, cette petite partie. Alors je me suis mise au milieu des choristes, des femmes du chœur, et je devais simplement prendre une note qui était donnée par le trombone. Et alors Toscanini s'est énervé un petit peu de pas me voir, de pas pouvoir me donner le départ, etc. Et il a eu cet adjectif, cette phrase merveilleuse qui m'a toujours suivi depuis. Il a dit mais cette voix d'ange, faites-la moi venir du ciel.
Thank you.
On ne donne plus aujourd'hui aux jeunes chanteuses le terme de diva. C'était vraiment une époque, une diva. Est-ce qu'il est vrai que les divas avaient leurs intransigeances et leur côté extrêmement capricieux? Et si oui, comment analysez-vous, ce qui pouvait être vos intransigences et vos caprices?
Ma io mi sono sempre ritenuta non una diva, però ci sono state diverse persone che hanno detto no, tu sei una diva anche se non ti va tanto di sentirtelo dire, perché sei così e nessuno te lo può togliere. Io penso che sì,
moi en fait je me suis jamais senti une diva et c'est les autres qui me disaient mais tu es une diva même si ça ne te plaît pas qu'on te le dise. Et c'est vrai que les divas avaient la réputation de faire des caprices. En fait, je ne faisais pas de caprice. Si quelque chose ne me plaisait pas, je partais. Sans dire un mot, sans une insulte, sans un cri. Alors, on venait me demander pourquoi, par exemple, j'étais sorti de scène. Et alors là, tranquillement, j'expliquais ce qui me contrariait. Et en général, tout s'arrangeait très bien. Mais je faisais pas des caprices avec des cris et des insultes. Et en fait, en n'étant pas une diva, en refusant ce statut de diva, j'ai eu une vie comme je la voulais moi et non pas comme la voulaient les autres. Par exemple, aux États-Unis, j'aurais pu passer ma vie dans les parties, dans les réceptions sans fin. Et alors au début, j'y suis allé parce que j'avais envie de. Je pensais qu'on parlerait de littérature, de peinture, des arts, et qu'il y avait quelque chose à apprendre. Et puis je me suis aperçu très vite qu'il y avait rien d'intéressant, qu'on n'apprenait rien. Alors je préférais rester chez moi, à lire ou à faire des mots croisés qui m'ont toujours. Ça m'a toujours beaucoup plus, m'a toujours beaucoup détendu. Et puis voilà, je me suis toujours accroché à ma vie musicale.
On a bien sûr énormément parlé de soi-disant rivalité avec Maria Callas. Est-ce que vous avez envie d'en parler?
Ma non è che ne parlo sempre molto volentieri perché ormai è un argomento questo che ha fatto poi il tempo che insomma sono molti anni che si va dietro con questa storia. C'è stata sì questa cosa di rivalità fra i miei fans e i suoi.
Donc, bon, c'est vrai que cette rivalité, c'est pas une chose dont je parle vraiment volontiers. Et puis, en fait, ça nous fait retourner bien loin en arrière. Et en fait, c'est une rivalité plutôt entre ses fans et les miens. Et la chose, c'est que Maria Callas a quand même dit des choses très, très désagréables dans certaines interviews. Et là, ça m'a fait réagir. Mais Son répertoire n'était pas le mien, on avait donc des répertoires différents, un caractère différent, des personnalités différentes, mais c'est vrai qu'il existait cette rivalité qui était née à Milan, avec deux parties antagonistes, et en fait ça servait surtout le théâtre en fait, c'était une forme de publicité. J'en ai pas vraiment souffert, parfois ça m'a mis en colère, et puis ça m'ennuyait de la manière dont certaines personnes ont pu se comporter, d'autant plus que, particulièrement à Milan, moi je suis rentré à la Scala, j'avais 22 ans, j'étais Renata Tebaldi avant que la Calas n'existe, et particulièrement à Milan, mais bon, c'est du passé.
Yes.
Quel est le souvenir le plus drôle que vous ayez eu?
C'était au Metropolitan quand nous avons fait une nouvelle production de Traviata. Et dans le second acte, il y avait un costume de couleur giallo, que à moi, le giallo non piace. Non sempre, mi piacciono i fiori, mi piacciono i foulard per esempio, oppure nella fantasia qualche cosa di giallo mi piace, ma un vestito per la Traviata color giallo a me non andava, poi anche il cappello grande era tutto giallo.
C'est vrai qu'il y a eu cette histoire d'une nouvelle production de Traviata au Met, et au deuxième acte, on voulait que je mette un costume jaune. Et moi, le jaune, c'est une couleur que je n'aime pas. Ça va bien pour les fleurs, pour un foulard, mais non, un costume, une robe jaune, je ne voulais absolument pas la mettre. Et alors, M. Bing, qui était à ce moment-là le directeur du Met, est venu me voir, mais dit, mais enfin, pourquoi ne veux-tu pas mettre cette robe? Et je lui ai dit, mais moi, le jaune, je n'en veux pas. Et alors, Bing, à ce moment-là, m'a dit, bien, eh bien écoute, va t'asseoir à l'orchestre, et puis attends un petit peu que je fasse régler les lumières, et tu vas voir que finalement, c'est pas le jaune que tu crois et que c'est très bien dans les lumières. Alors, je me suis installé à l'orchestre. Et puis, après quelques minutes, j'ai vu arriver sur scène, comme ça, un personnage qui marchait d'une manière pas très gracieuse, pas très élégante. Et en fait, c'était Bing lui-même qui avait mis le chapeau un grand chapeau et la robe jaune. Et qui, pour me montrer qu'effectivement, c'était pas un jaune, mais que ça tournait plutôt sur le beige. Alors, tout le monde s'est mis à rire et moi, je me suis mis à rire aussi. Et voilà, l'histoire s'est terminée dans le rire et j'ai mis le costume jaune.
Vici d'Arte, l'air de la Tosca dans l'acte 2 de l'opéra de Puccini qu'interprétait Renata Tebaldi referme la première partie de cette mémoire retrouvée que lui avait consacrée Gaël Le Gallic en 1994. À suivre demain le second volet de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur le site de France Musique pour vous abonner au podcast. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
C'était les trésors de France Musique par Françoise Monteil. Bienvenue dans les nuits de France Musique. Tout de suite, les essentiels de François-Xavier Chemchak.
Bonjour et bienvenue, voici les essentiels de l'Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, 8e épisode sur cette série. Dans cette série, nous en sommes arrivés à la seconde moitié du 19e siècle dans notre exploration de l'histoire de la musique avec cet orchestre français. Après Bizet, Saint-Saëns ou César Franck, direction Moscou et Saint-Pétersbourg pour deux émissions sur la musique russe, celle de Stravinsky ou Prokofiev demain, celle de Tchaïkovski, Moussorgski, Rimsky-Korsakov ou Borodine aujourd'hui. Et ça commence avec le père de la musique russe moderne, Mikhail Glinka, dont voici l'ouverture de l'opéra Ruslan et Ludmila, sous la direction d'Ernest Ansermé. 1953, à Paris, salle de la Mutualité, Ernest Ansermet dirigeait l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dans l'ouverture Rouslan et Ludmila de Glinka, réédité dans un disque intitulé Ansermet in Russia, Ansermet en Russie. Nous allons retrouver au cours de cette émission ce légendaire chef d'orchestre suisse qui a été un partenaire privilégié notamment de Stravinsky mais de bien d'autres musiciens du XXe siècle. Il était un fin connaisseur également du XIXe comme on l'entend. Cette série d'émissions nous a permis de côtoyer des chefs d'orchestre dont on a entendu à plusieurs reprises le nom, Charles Munch, André Kleutens ou encore Georges Prêtre. Et bien pour cette série russe, on va entendre d'autres chefs d'orchestre également, comme Ernest Ansermet, comme Erich Kleiber, monumental chef d'orchestre qui était le père de Carlos Kleiber, et puis tout de suite Georg Scholti. Scholti qui lui aussi a eu l'occasion de diriger cet orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. En voici un témoignage dans la valse de la 5e symphonie de Tchaïkovski. Thank you. qu'il y ait des lieux comme ça qui ont marqué l'histoire de l'enregistrement de ces musiciens français dans les années 50-60. J'évoquais souvent la salle Wagram, près de l'Arc de Triomphe. Et puis, il y a cette maison de la Mutualité qui se trouve 24 rue Saint-Victor, dans le 5e arrondissement. Un théâtre construit dans l'architecture Art déco en 1930 et où a été réalisé cet enregistrement avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé en 1956 par Georg Scholti, qui dirigeait ici la 5e symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, dont c'était le 3e mouvement, la valse. Cette série d'émissions nous permet d'entendre ces grands chefs d'orchestre, également des grands solistes, comme par exemple les violonistes Léonie Kogan, Christian Ferras, Yehudi Menuhin, ou encore Davy Early, qui est peut-être moins connu à l'international, mais qui est un remarquable violoniste français, qui était né à Paris, justement, en 1928, qui a beaucoup fait pour la musique de son temps, créant de très nombreuses partitions, notamment dans les années 60, que ce soit des œuvres de Henri Sauguet, de André Jolivet, dont il était le gendre, ou encore de Darius Milhaud. Davy Early, qui a formé de très nombreux musiciens, tout d'abord au Conservatoire de Marseille et ensuite au CNSM de Paris dans les années 80-90. Lui-même était un disciple de Jules Boucherie, qui a marqué l'histoire du violon français. Et Davy Early, eh bien, on va en l'entendre avec cet orchestre, ici dirigé par Georges Tipin, dans un classique du genre, le final du concerto opus 35 du même Tchaïkovski. Thank you.